J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Les quartiers Livoulou, Réguigny et Salongo dans la ville de Kinshasa ont subi la loi des jeunes délinquants appelés Kuluna durant toute cette période de festivités. Des pare-brises, des véhicules brisés pour voler tous les contenus des véhicules, des biens des passants extorqués sur certaines avenues ainsi que des blessés par machette parmi les passants les plus résistants. Ce sont autant des opérations Kuluna enregistrées surtout dans la nuit du 31 décembre. Au 1er janvier. Les quartiers Livoulou, Réguigny, Salongo ont été les plus visés par des jeunes délinquants durant toute cette période de festivités pendant qu'au même moment, la police nationale congolaise venait de traquer 450 présumés bandits Kuluna. C'était lors des opérations de bouclage organisées dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 dans les quatre districts de la ville de Kinshasa. Très tôt le matin du jour de la Saint-Sylvestre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, a effectué une ronde dans des maisons communales où étaient incarcérés ces individus afin de s'assurer de la sécurité de la population quinoise pendant les festivités des fins et des nouvelles années. Que pensez-vous de l'opération Ndobo et est-ce que cette approche suffit-elle pour réduire considérablement et de manière durable les banditismes urbains en RDC? C'est autour de ces questions que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs de ce mardi 7 janvier 2025. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp des paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 099-706-8079. Je répète, 099-706-8079. Alain Goy est à la mise en onde de ce magazine, Paul Badianyama et Nelson Nyombe à la vidéo et Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination à la présentation Guy Maté.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui, comme je l'ai dit, du plan de lutte contre le banditisme urbain avec l'opération Ndobo initiée par le gouvernement central au mois de décembre dernier. Et pour échanger sur ces sujets, nous aurons dans cette émission Maître Jacquemain Chabani Louko, il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières du gouvernement central. Et en fait, il est en train de venir, il va nous rejoindre ici physiquement. Mais on peut déjà commencer avec lui au téléphone. Bonjour Maître Jacquemain Chabani Louko.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de répondre, n'est-ce pas, à notre invitation pour répondre à toutes ces préoccupations des auditeurs et internautes de ces médias de la paix. Et j'en profite pour vous présenter à vous ainsi qu'à toute votre famille nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025.
Mes vœux les meilleurs aussi à vous, je vous les réciproque. Bonne année à tous vos auditeurs et merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Excellence.
C'est un plaisir d'être parmi vous.
Un plaisir partagé. Alors, d'abord, de tous ces délinquants Kuluna que vous avez arrêtés jusque-là, j'espère que on est dans les 2000, parce que si je ne m'abuse, de tous ces délinquants Kuluna que vous avez arrêtés jusque-là, jugés et condamnés à mort, combien vous avez déjà exécuté, monsieur le ministre?
Aucune exécution n'a n'a eu lieu dans l'opération Dobo. Nous avons jusqu'à présent, à travers les différentes opérations de la police nationale congolaise, principalement le commissariat provincial de la ville de Kinshasa, à travers 6 opérations, si je ne me trompe pas, nous avons pu mettre la main sur 2577 personnes, membres de ces groupes de malfaiteurs qui ont cristallisé malheureusement le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa et ses différents quartiers. Donc 2577 personnes arrêtées. Sur ces 2577 personnes arrêtées par la police, 276 sont passées devant leur juge et ont eu des sentences de condamnation civiles et militaires. Elles sont diverses de différents nombres. 127 ont déjà été transférés dans des prisons de haute sécurité à l'intérieur du pays. Et 149 sont en transit vers la prison de Makala. Les autres sont encore en détention préventive dans les commissariats, les différents commissariats. Et donc, c'est ceux qui sont en détention, c'est 2301. Le reste ont été libérés à travers les différentes procédures des interrogatoires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de charge. Tous les concernés, ils ont fait l'objet de libération.
Oui, monsieur le vice-premier ministre, êtes-vous satisfait par le travail accompli par la police nationale congolaise pendant la période des festivités?
Nous avions beaucoup et énormément d'inquiétudes. Avant les fêtes, il y a de cela 3 mois. Et si vous faites une bonne analyse rétrospective, vous allez constater que nous avons multiplié les réunions, nous avons multiplié aussi les interpellations des différents services sur la sécurisation de nos quartiers, de nos avenues, de notre ville. Valable pour Kinshasa, mais aussi pour d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Je disais que nous avions beaucoup d'inquiétudes et je crois que nous avons réussi, grâce au travail de la police nationale, nous avons réussi à passer les festivités sans trop de casse. Et j'estime que bon, c'est aussi votre travail, vous pouvez faire des sondages pour interroger notre population. Le taux de criminalité urbaine a sensiblement baissé, mais le travail reste encore à faire. Il est encore énorme parce qu'il faut le pérenniser, il faut qu'on soit rassuré que c'est un phénomène malheureux qui sera définitivement derrière nous pour cela. Le gouvernement s'y attelle à travers ses différents ministères sectoriels et nous allons encore accentuer cette action qui est une instruction ferme du président de la République et de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous allons accentuer et élargir même les intervenants dans cette préoccupation.
Oui, vous dites que le taux de criminalité a baissé. Monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, comment vous expliquez le fait que quand les uns sont arrêtés, jugés, condamnés à mort, on brandit même la menace de les exécuter, les autres continuent à insécuriser la population en commettant des forfaits. Comment vous expliquez ces faits-là?
Non, j'ai déjà identifié ici que le taux a quand même baissé. Je crois que nous avons entre nos mains les services habilités à faire des statistiques en cette matière-là, à travers les différents commissariats de police. Il existe des fichiers de criminalité et si nous avons réussi à faire ce travail de cette manière-là, avec les statistiques que je viens de vous donner, c'est parce que au niveau de la police nationale congolaise, les statistiques et les fichiers de ces différents individus, des meneurs de bandes et des différentes personnes qui sont dans ces différents gangs sont connus et fichés. Donc à partir du moment où nous avons réussi à mettre la main sur un bon nombre d'entre eux, il y a une certaine accalmie et ça c'est une réalité. Maintenant, le travail continue, mais le travail que nous faisons, c'est aussi un travail pédagogique. C'est pour ça que vous avez eu à constater qu'avec le ministère de la Justice, nous avons multiplié des audiences foraines publiques, télévisées. Nous sommes, à travers ces différentes activités, en train d'éduquer, de lancer des messages à nos populations. Nos populations, c'est-à-dire non seulement les jeunes gens concernés par ce banditisme urbain, mais encore plus leur environnement, c'est-à-dire les familles, les parents, ceux qui ont la responsabilité de les gérer, de les éduquer, de les encadrer. Donc, à travers tout ce travail-là, nous estimons qu'il y aura, les choses seront mieux comprises et nous allons arriver à atteindre nos objectifs.
Voilà, ils sont arrêtés en masse, envoyés dans des différentes prisons. Monsieur le vice-premier ministre, vous les envoyez dans quelle prison quand on sait que toutes les prisons de la RDC sont caractérisées par une surpopulation carcérale, et c'est d'ailleurs officiel. Vous les envoyez dans quelle prison?
Il y a depuis 4 mois, je crois, 4 mois ou 5 mois, au niveau du ministère de la justice, un travail qui est en train d'être fait pour améliorer les capacités du gouvernement en termes d'incarcération. C'est vrai que la problématique, elle a été identifiée, mais il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là. Ce qui fait que certaines de nos prisons sont en train de subir des travaux pour améliorer leur capacité d'accueil. D'autres projets sont en termes de construction. Donc le ministère de la Justice a identifié certains lieux de détention sécurisés à l'intérieur du pays, dont la prison de Agenga et de Bouluo, qui font partie des lieux de détention où sont acheminés ces différents membres de groupes de banditisme urbain.
Merci, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du plan des luttes contre les banditismes urbains avec l'opération Ndobo initiée par le gouvernement central au mois de décembre dernier. On en parle avec notre invité, Maître Jacquemin Chabani Louko. Il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières du gouvernement central. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 09 906 80 79. Je répète, 09 906 80 79.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Capi et au canal 573 pour Radio Capi Enfant. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous allons maintenant ouvrir notre standard avec tous ces auditeurs qui sont en ligne pour intervenir. Et ici, Maître Patrick Odia qui veut intervenir depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Patrick Odia, bonjour.
Oui, bonjour Guy Maté, bonjour au vice-premier ministre de l'Intérieur et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci de m'avoir associé à ce niveau du débat. Nous cherchions régulièrement le ministre de l'Intérieur pour qu'il nous puisse également communiquer sur les différentes actions qui sont prises au niveau de son ministère. Mais nous y voici. Je voudrais d'abord le féliciter pour son efficacité au sein du gouvernement également et toutes les mesures qu'il est en train de prendre, même s'il y a ça et là que nous décrions, notamment, laissez-moi en parler, la convocation sans raison du gouverneur du Kasaï. Je pense que nous en parlerons dans une autre émission, mais pour aujourd'hui, nous parlons de cette question sécuritaire, insécurité minée par les Kouloun également dans les quartiers nettement comme Rigini et les autres également. Il y a lieu de saluer cette mesure et l'envoi de ces Kouloun au niveau de, comment je peux dire, au niveau de la prison des Angengue. Mais, dit Maté, il y a des inquiétudes. C'est une mesure conjoncturelle. Cette mesure que le ministre est en train de prendre, c'est une mesure conjoncturelle qui n'est pas une mesure continue, voyez-vous, et qui est une mesure qui ne prend pas en compte les réalités sociaux anthropologique également de ces peuples qu'on appelle autrement les Kouloun. Pourquoi? Aujourd'hui, nous saluons la mesure, personnellement, nous saluons la mesure de l'envoi de ces Kouloun vers la prison d'Ankengue parce qu'il y a l'insécurité grandissante au sein de Kinshasa et dans d'autres villes également. Mais la première question que nous posons, est-ce que le ministre pourra-t-il également prendre ces mêmes mesures pour aller à Mbujimayi, pour aller au Katanga? Je lui signale tout à l'heure, qu'au Katanga, c'est le même système également. À Goma, c'est le même système également. Mais nous avons l'impression de dire que les mesures sont plus efficaces ou sont prises que pour l'image politique ou la consommation médiatique à Kinshasa. La première réaction, je pense qu'il pourra également réagir face à ça. La deuxième préoccupation, c'est quant à au caractère conjoncturel de cette mesure. Ce n'est pas une mesure permanente, on peut le dire. C'est une mesure conjoncturelle qui n'a que pour une durée peut-être de 6 mois, 7 mois. Et quand l'autre ministre pourra venir, et cette mesure sera également bannie et d'autres mesures pourront. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une politique de continuité de ces mesures également pour permettre à ce que les peuples puissent vivre en toute sécurité? Ça, c'est la deuxième considération également. Mais sans pour autant dénigrer cette mesure, il faudrait que les gouvernements puissent prendre ses responsabilités pour permettre à ce que ces jeunes, parce que tentés ou poussés par la pauvreté et parfois le détournement des deniers publics par les acteurs politiques, des 50 millions, des 100 000 millions, on en parle, et ces peuples qui n'ont pas de travail tentent également de trouver une issue qui n'est pas du tout légale, qui n'est pas du tout licite, que nous décrions malheureusement, mais pour ta part, ces peuples pensent que non, c'est légitime. Donc je pense que au-delà de cette mesure conjoncturelle, il y a lieu de penser également d'une politique continuelle. Il y a lieu également de prendre en compte l'employabilité des jeunes, que ça ne doit pas être toujours sur le plan théorique des 6 millions, mais on doit permettre à ce que ces jeunes soient formés, non seulement formés par les services nationaux, mais beaucoup plus d'autres centres que le gouvernement peut créer et aussi créer les emplois. Ça permettrait également de guérir un peu ces maux qui rongent la population et l'insécurité, non seulement à Kinshasa, mais dans l'ensemble du pays également. Je pense que le ministre pourra nous éclairer là-dessus et nous lui rendons nos hommages également pour son travail qu'il est en train d'abattre au sein du ministère de l'Intérieur.
Patrick Odia, on va à Kisangani avec Blaise Saïdi. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour cher Guy Maté. Bonjour à l'excellence Chabani. Bonne année à l'excellence Chabani.
Merci pareillement.
Voilà, on vous écoute.
Merci. Je profite de l'occasion de féliciter l'excellence Chabani puisqu'il était à Kisangani pour un forum de la paix entre les conflits communautaires Lingola et Mbole. Nous félicitons pour l'initiative prise, puisque lui-même, il était présent dans cette situation. Voilà. C'est de l'occasion aussi de profiter à partager au regard de ces sujets trop pertinents concernant le banditisme urbain. Cher Guy Maté, le banditisme urbain en RDC, c'est presque dans toutes les villes. Non seulement à Kinshasa, mais nous allons remarquer que non, à Kinshasa, cette situation prend une autre allure. Mais la question que je vais un peu poser à l'excellence Chabani, pourquoi il y a recrudescence de cette situation? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Puisque l'excellence Chabani, y compris le ministre de la Justice, Constant Mutamba, ils se battent vraiment pour qu'il y ait la paix à Kinshasa, qu'il y ait la paix en RDC. Mais du moins, ce que je devrais aussi regretter à quelque sorte, puisque nous assistons à chaque fois s'il y a un ministre qui arrive au pouvoir, il y a toujours quelque chose qui arrive le nom. Aujourd'hui, nous avons l'opération Ndobo. Et demain, on aura encore un autre ministre, il va encore amener une autre opération. Mais pourquoi? On veut seulement que cette opération était pour tel ministre, était telle pour tel ministre. Là, ce n'est pas normal. À mon avis, c'est la continuité de l'État telle que Maître Patrick Odia avait parlé. Qui est continuité de l'État? Qui est continuité de l'État? Alors, le gouvernement donne plus de moyens. Mais pourquoi on doit toujours assister à cette situation? Cher Guy Maté, merci.
Merci, cher Blaise Saïdi. Nous allons à Mahagi, à Nitouri, avec Sylvain. Sylvain, bonjour.
Et bonjour, cher Guy Maté. Je voudrais saluer les VTM Louko et aussi vous-même ce matin.
Merci.
Je salue aussi Patrick Odia qui a intervenu avant moi et aussi mon frère Blaise Saïdi. En fait, la problématique que vous soulevez aujourd'hui, c'est l'existence même de l'État congolais. C'est 2020 que nous on a proposé au gouvernement congolais un plan de municipalité. Monsieur Guy, Blaise Saïd pose quelques interrogations. Et j'ai retenu une seule question. Qu'est-ce qui est dans la Bakhtash Plouma?
Votre ligne est en train de se dégrader. Est-ce qu'il y a possibilité de bouger là où vous êtes? Si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison. Si c'est possible.
Oui, là vous me suivez?
Allez-y.
Alors voilà, je disais que mon ami Blaise donne des interrogations. Et je crois que le ministre devait commencer par là. Qui fabrique les clowns? Et comme je vous disais, nous, c'est depuis 2020. Nous avons fait les analyses des clowns à travers le pays, et spécialement de Kinshasa, avec la Fondation Missionnaire Internationale. Et nous avons proposé à ce gouvernement un plan de travail. Mais avant que je n'arrive, je voudrais dire ceci de ce Guy Maté, parce que nous avons l'excellence, monsieur le VTM de l'intérieur. Il y a deux catégories de clowns. Il y a des clowns dans la rue, mais il y a des clowns qui sont dans les bureaux. Et ce sont les clowns qui sont dans les bureaux.
Vous voulez parler de ce qu'on appelle communément clown en cravate, c'est ça?
En cravate. Voilà. Ce sont eux qui produisent le clown. Pourquoi, monsieur Guy? Puisque cette émission est suivie par toutes les autorités du pays. Je dois vous dire que moi, j'ai soutenu l'opération Dobo. J'ai soutenu cette opération. Et je préfère que l'opération puisse s'étendre aussi vis-à-vis des clowns en cravate. Parce que ce sont ces clowns en cravate qui produisent les clowns d'aérie. Comment cela se fait? Monsieur Gère, que nous dit l'article 36? Tous les Congolais doivent travailler. L'article 47, tous les Congolais doivent avoir une bonne santé et la sécurité alimentaire. L'article 48, tous les Congolais doivent logement décent. L'article 58 de la Constitution, tous les Congolais doivent jouir de richesse nationale. L'article escalaire, je finis par là, tous les Congolais doivent jouir du patrimoine international ou mondial. Mais ces clowns-là, qui sont-ils? Ce sont des personnes élevées, ce sont des personnes aimées. Ils sont jaloux tous les plus dans des situations inconfortables provoquées par les politiques publiques.
Merci, on a compris.
Par notre pays.
Merci.
Je dis.
Merci, plutôt Sylvain. Monsieur le vice-premier ministre Jacquemin Chabani-Louco, vous allez réagir donc à ces quelques interventions. Il y a Maître Patrick de Lubumbashi qui a parlé des mesures conjoncturelles qui ne prennent pas en compte les réalités socio-économiques de ces Kuluna. Ça, c'est lui. Il a aussi parlé des mesures provisoires, n'est-ce pas? Et pour lui, il faut plutôt une véritable politique dans ces domaines-là. Blaise Saïd dit d'Exangani, qui pose la question de savoir pourquoi il y a ces regains, n'est-ce pas, des Kuluna, cette recrudescence de ces phénomènes. Et Sylvain, qui pose presque la même question, il dit qui fabrique les Kuluna. Voilà, un plan de lutte contre ces phénomènes. Il parle des deux catégories de Kuluna. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole.
Merci. Alors, le confrère Patrick Odia s'est posé la question de savoir si la lutte contre le banditisme urbain se limitait à la ville de Kinshasa.
Voilà,
il nous a informé que cette réalité était commune à beaucoup d'autres villes. Il a cité Mbujimayi, le Katanga et Goma. Je peux le rassurer que lorsque nous avons pris cette initiative au lendemain des instructions qui nous ont été faites en Conseil des ministres, nous avons lancé un plan national sur le banditisme urbain. Et au travers des différentes réunions que nous avons tenues avec les services et surtout le commandement général de la police nationale congolaise, il a été sorti un plan opérationnel qui nous a été présenté. Et ce plan opérationnel avait pour modalité pratique d'être exécuté dans un premier temps dans la ville de Kinshasa. C'est pour ça que vous constatez que la traque...
Donc c'est la ville pilote.
Voilà, c'est l'expérience, c'est la ville pilote. Le commissariat de la ville de Kinshasa a rendu ce plan, ses commandements en opération et il s'exécute tel que nous sommes en train de le partager au cours de cette émission. Et depuis maintenant, je crois, un mois et demi, nous avons sollicité les différents commissaires provinciaux de police à travers toute la République d'identifier chacun dans sa circonscription des villes faisant objet et étant sous le joug du banditisme urbain, pour que eux aussi puissent traduire ces ordres en plan opérationnel et nous faire part de leur état de besoin. Ce qui va permettre à ce que l'opération Ndobo se déploie dans les différentes villes, et ça je peux rassurer nos concitoyens que très prochainement, au courant de fin janvier, début février, nous allons nous déployer dans ces différentes villes pour venir en appui.
N'est-ce pas une mesure, comme les auditeurs l'ont dit, ils ont martelé là-dessus, n'est-ce pas une mesure conjoncturelle? Est-ce qu'elle va s'inscrire dans la durée?
Elle va s'inscrire dans la durée, elle n'est pas conjoncturelle, je m'explique. C'est pour ça que je dis que pour venir en appui, il ne faut pas ignorer. Et là, je vais répondre aussi à une autre question. Il ne faut pas ignorer que plusieurs de nos villes, de nos cités, à travers leurs administrations, c'est-à-dire ça peut être le gouverneur ou le bourgmestre, ça peut être le commissaire provincial ou le commissaire des districts, ont des opérations déjà établies contre le banditisme. Une opération similaire existe dans les villes de Lubumbashi. Vous avez à Goma l'opération Safi-Jamouji, qui est en pleine exécution et qui fait ses œuvres. Mais maintenant,
vous évaluez périodiquement ces
opérations. Nous évaluons périodiquement ces opérations. Nous venons en soutien dans certaines villes à ces opérations de lutte contre le banditisme pour sécuriser nos populations. Mais ici, nous allons étendre cette opération qui est nationale à d'autres provinces pour nous rassurer des résultats attendus. Mais par là aussi, je voudrais dire que nos concitoyens n'ont pas à se cristalliser sur les dénominations qui sont données à ces différentes opérations. Elles n'ont aucune incidence, surtout politique. Ce sont des activités des services. C'est la même chose au niveau des forces armées, où différentes opérations ont une dénomination qui est donnée par l'état-major, le commandement ou l'autorité politique. Donc je crois que c'est une fausse polémique d'aller passer son temps sur telle dénomination qui a été donnée à telle période. Nous pouvons aujourd'hui, au cours d'une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise, passer à une étape supérieure ou différente.
À quel moment on a parlé des panthères?
Oui, il y a eu plusieurs noms. Voilà. C'est-à-dire que demain, nous pouvons faire l'évaluation de l'opération Ndombo et de décider que nous passons à une autre étape, on va procéder autrement, et ils vont nous dire, bon, tactiquement, pour mieux faire les choses, on donne une autre dénomination, donc ça n'a aucune incidence. Le plus important, c'est que les services sont attablés et concentrés sur
la sécurisation de
nos populations, ce qui est l'une des promesses et des objectifs du président de la République.
Blaise Saïdi et Sylvain ont insisté sur... ils ont posé la question de savoir qui fabrique ces Kulunas. Et en fait, ils ont raison, parce que les phénomènes Kulunas, surtout dans cette ville, avaient pris des allures inquiétantes. Certains observateurs commençaient même à soupçonner les pouvoirs d'entretenir ces phénomènes. Comment on en est arrivé là, monsieur le vice-premier ministre? Je sais que vous venez d'arriver, vous venez de faire quelques mois au ministère, mais vous êtes dans ces pays, vous avez grandi dans ces pays, né et grandi dans ces pays. Vous voyez comment ce phénomène a commencé, comment il a pris de l'ampleur. Comment en est-on arrivé là?
Comment peut-on suspecter un seul instant son propre gouvernement d'entretenir une telle calamité? C'est impossible.
Non, ici, mais vous savez, lorsqu'on évoque ces phénomènes des bandits urbains, les gangs en Haïti. Oui. Mais lorsque les criminologues essaient d'expliquer les phénomènes, ils évoquent le fait qu'il y a des hommes politiques, n'est-ce pas? Il y a des hommes politiques qui ont financé ces gangs, qui ont encouragé ces gangs et qui continuent à les entretenir jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc en politique, tout est possible.
Lorsque vous parlez des hommes politiques, il ne faut pas identifier le gouvernement nécessairement. Les hommes politiques, c'est vague, ça peut être dans tous les sens.
Oui. Comment est-on arrivé là?
Moi, je crois qu'ici, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs économiques et il y a aussi des facteurs politiques. L'un des facteurs les plus indicatifs que moi je vois dans ce phénomène malheureux, c'est que nous avons affaire à une jeunesse désœuvrée. C'est-à-dire une jeunesse qui malheureusement n'a pas eu l'avantage de pouvoir avoir l'opportunité d'une formation. Et ici j'identifie l'une des réponses données par le président de la République, c'est la gratuité de l'enseignement. Je crois qu'à partir du moment où nous arrivons à amener nos enfants à l'école, à permettre à nos enfants d'accéder à l'éducation, on va au fur et à mesure tant soit peu les éviter de tomber dans de telles traverses.
Et ce sont là les mesures structurelles, n'est-ce pas?
C'est des mesures structurelles à long terme qui sont prises, à long terme qui sont prises. Et puis après, il y a aussi d'autres facteurs en termes de chômage et d'emploi. Ici, je dois informer vos auditeurs qui se sont préoccupés de savoir si les mesures sont permanentes. L'initiative telle qu'elle a été prise depuis que, sous le gouvernement de son Excellence Madame le Premier ministre Judith Suminoir, nous avons dans l'équipe de travail d'abord été identifiés à 3 ministères, dans un premier temps, et nous sommes en train d'élargir la commission qui travaille sur la lutte contre le banditisme. Nous étions dans un premier temps le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère de la Justice, nous avons lancé et engagé toutes les actions sur la lutte contre le banditisme urbain, tel que vous êtes en train de le constater. Nous venons de passer à une étape différente. Nous avons inclus là maintenant le ministère des Affaires Sociales et le ministère des droits humains qui va nous accompagner pour bien encadrer toutes ces questions-là, mais il va falloir à un moment donné où le ministère de la jeunesse, le ministère de la formation professionnelle et d'autres secteurs puissent s'intéresser à cette question pour nous permettre au gouvernement de donner toutes les réponses qui feront en sorte à ce que on se rassure que notre jeunesse n'accède pas ou ne soit pas confronté à cette délinquance au cours de son cursus. On se rassure aussi que elle se retrouve dans un environnement sécurisant qui ne lui permet pas de tomber dans ses traverses avec une formation, des emplois et un encadrement adéquat. Et c'est cette politique-là qui est mise en place et qui va permettre que à long terme nous puissions nous rassurer que nos villes, nos cités ne puissent plus faire l'objet de ce banditisme qui est une réalité mondiale. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui le connaît. Nous sommes un très grand pays avec une très forte population et une densité très 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 active. Donc le gouvernement se doit de se munir d'une politique qui prend en compte tout cela et qui prévient et qui se rassure que sa jeunesse évolue dans un environnement et un encadrement qui l'empêche d'entrer dans ces conditions.
Il y a aussi
d'autres réalités. Nous avons parlé des réalités socio-économiques et politiques. Il y a aussi d'autres réalités. Quand vous allez dans des environnements comme celui du Nord Kivu, la ville de Goma, qui est une province qui a des réalités différentes que Kinshasa ou même le Kasaï, qui est une province qui a un cycle régulier
de conflits armés.
Où nous avons là des politiques traîtres de la nation qui se permettent à chaque fois que leurs intérêts égoïstes ne trouvent pas de réponse d'emballer la République démocratique du Congo dans ce cycle de guerre et de rébellion à travers des attitudes de traîtrise où ils deviennent les marchepieds des ennemis de la République. Là, nous avons une autre jeunesse qui, elle, est habituée et accommodée à des groupes armés qu'il faut aussi savoir encadrer. Et il y a le programme du PDDRCS que le président de la République soutient fermement, qu'on doit nécessairement aussi engager fermement dans ce domaine.
Merci, on rentre à notre standard. Il y a ici à Kinshasa Glody Bouanganga. Glody Bouanganga, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, monsieur Guimaté.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Guimaté. Bonjour également, Excellence. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. J'ai bien suivi avec attention son Excellence, son allocution. Il dit des choses qui sont vraies, sérieuses et honnêtes. Mais parfois, monsieur le ministre, laissez-moi vous dire certaines vérités. Parfois, vous n'avez pas pu comprendre ça. Au jour d'aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, l'insécurité urbaine, autrement appelée les koulounas, sont plus fréquents dans des camps militaires. Laissez-moi vous informer. C'est très malheureux. Au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez vers Sosimat, vaisseau de mouton là, à côté de Camp Kokolo, essayez d'ouvrir votre téléphone vers 18h, vous allez voir les réactions. Et quand vous venez ici au niveau de Lemba vers Camp Kabila, s'il fait 18h, il y a des endroits où les gens ne fréquentent pas. Parfois, moi, je me demande, c'est une camp militaire, les militaires sont là. Qui est censé de faire la sécurité de la population? Si dans les camps militaires, les policiers sont là, on peut vous voler les téléphones. Les policiers sont là debout et vous allez voir les voleurs qui entrent de fuir avec les téléphones qui entrent dans les camps. Alors, dis-moi, nous sommes dans quel pays, monsieur le ministre? Et aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu dénoncer. Le jour où vous êtes arrivé à Malou, moi, j'étais là, je vous ai vu. Et à majorité des couloirs que vous êtes en train de faire l'opération d'Obo ici dans le centre-ville province de Kinshasa, ils sont dans les périphéries de la ville province de Kinshasa. Il serait souhaitable de commencer l'opération d'Obo dans les périphéries de la ville province de Kinshasa, parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le moment? Lorsque vous êtes à Lemba, et ils vont fuir à Kinshasa. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, et ils vont revenir ici. Donc, c'est mieux de commencer l'opération d'Obo dans les périphéries de la ville province de Kinshasa, et vous allez attraper tellement de malfrats. Et moi, je pense que si j'ai dit vous allez terminer le coup, là, c'est fou. Vous allez un peu atténuer cet effet des bandits urbains qui se passent dans la ville province de Kinshasa. Mais aussi, quelque chose que je voulais dénoncer encore. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de l'Intérieur. Les phénomènes Mobondo. Moi, je suis du grand Bandundu. Au jour d'aujourd'hui, ça nous fait tellement mal. Vous, en tant que ministre, quelle est votre implication? Parce que les phénomènes Mobondo, c'est parmi des phénomènes qui gangrènent tellement la population. Et parfois, la population sera délaissée dans leur triste sort. Tous les déplacés de Mobondo sont là dans la ville province du Kwilu actuellement, qui manquent même à manger. Pendant qu'ils sont des Congolais, ils ont droit à la vie. Et quel est le travail des ministres des Affaires sociales? Parfois, on ne vous a jamais dit. Je venais d'être là, je vis nos frères congolais, ça m'a fait tellement mal. Alors, au micro de la radio Capi, je profite de demander votre aide en tant que ministre de s'imposer sur cette affaire. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Glody. Jean-Arthur Kabamba, de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, du matin.
Allez-y.
Bonjour à Jacquemin Chabani, le ministre de l'Intérieur. Meilleur vœu à tous.
Merci.
Et selon moi, je commence à regarder que Constant Moutamba, le ministre de la Justice, il est le meilleur ministre du gouvernement Judith Suminwa. Pourquoi je dis ça? Quel est le rôle, la compétence et les attributions spécifiques de Jacquemin Chabani? 1. Il est le ministre de l'Intérieur. 2. Il est à la sécurité de la population. 3. Décentralisation et affaires coutumières. Je ne sais pas si ces prérogatives vont changer de 2022 ou on a changé de prérogatives, mais à ce que je sais, il a ces 4 prérogatives. Comment le ministre de la Justice, Constant Moutamba, sera à la tête pour la délinquance juvénile? Tandis que madame,
peut-être que vous n'avez pas bien, compris les explications. Peut-être, monsieur Jean-Arthur, peut-être que vous n'avez pas bien compris les explications du ministre. Effectivement.
Non, j'ai compris.
Oui.
J'ai bien compris, mais je vais chiter. J'ai bien compris, dit Mathieu.
Allez-y, Jean-Arthur.
Puisque l'opération Ndobo est venue après les opérations que le ministre de la Justice a effectuées. Libération. par ses compétences, il a libéré les enfants qui étaient à Makala pour prouver que, bon, j'ai fait une grâce, mais à la prochaine, il ne faut pas retourner à la délinquance juvénile. Or, qui doit sécuriser la population? Si aujourd'hui, Constant Mutamba a pris ses prérogatives-là d'exécuter, être à la tête, puisque Constant Mutamba doit travailler comme en collaboration avec le ministre principal qui est à la sécurité de la population.
Justement, puisque il travaille en collaboration. De toute façon, le ministre le vice-premier ministre va vous expliquer.
Mais je vais chiter Guy Maté.
Allez-y rapidement, parce qu'on a plus de temps.
Je pose pour chiter, puisque vous me coupez, pour chiter, je pose une question à M. le ministre Jacquemain Shabani. Pour exécuter l'arrêté ministériel de Rose Mutombo, de la fois passée, elle avait cité la peine de mort et tout ça. Alors, maintenant, on va attendre la révision constitutionnelle, puisque l'article 16 interdit toutes ces choses-là. Je pouvais les citer, mais vous connaissez, lui-même connaît très bien. Est-ce que pour exécuter le Kuluna, on doit attendre la révision constitutionnelle, ou ça va se faire à cette période, puisque
il a parlé d'une émission, une émission pédagogique, hein. Donc il va essayer de nous expliquer toute la procédure, n'est-ce pas, qui pourrait aboutir à l'exécution des Kuluna. On a compris. Merci beaucoup, Jean-Arthur Kabamba, qui nous appelait depuis Kinshasa, Selembao. Et nous allons prendre, toujours à Kinshasa, Maître Omar Kigalou. Maître Omar Kigalou, bonjour.
Bonjour, Monsieur Guimat, et bonne année à tous les auditeurs.
Merci, allez-y.
Merci beaucoup du verbe que vous m'adjugez. Monsieur Guy, je salue également Monsieur Jacquemain Shabani.
Bonjour.
Une de rares des élites de l'UDP qui réfléchit mieux, c'est rare.
C'est trop fort ça. Hein.
Alors, Monsieur Guimard,
pourquoi vous voulez faire à chaque fois des comparaisons?
Ça n'engage que moi.
Voilà, restons dans les sujets.
Je salue l'intellectuel. Merci. Je disais donc, Monsieur Guimard, le rôle premier de l'État est celui gendarme, celui de garantir l'ordre, la sécurité, la tranquillité publique. Ce faisant, je félicite le gouvernement via le ministère de l'Intérieur qui a initié l'opération Dobo. Cette opération a un impact sérieux sur nous en Kinshasa ici. On n'a pas seulement le rôle de critiquer, mais aussi d'apprécier ce qui s'est fait. On a constaté autant que faire s'est pu la diminution de ces phénomènes ici à Kinshasa, précisément dans la commune dans laquelle je vis. Félicitations au gouvernement pour cela. Mais puisque chaque œuvre a toujours des imperfections, je voudrais, l'occasion faisant les larrons, rappeler au ministre qu'il y a également des implications malheureuses, notamment les arrestations arbitraires. Certains policiers véreux profitent de cette opération pour arrêter des jeunes. Ça se passe presque tous les jours et les parents doivent payer des amendes colossales pour récupérer les jeunes. Si on peut mettre un œil là-dessus. Deuxième chose, monsieur le ministre, puisqu'on parle de Kuluna, il y a une branche de l'UDPS qu'on appelle Force du Progrès qui opère presque chaque dimanche à Mombele. Lorsque nous venons, nous passons par là, lorsqu'ils font leur marche, ils arrachent les téléphones, ils frappent, ils font n'importe quoi. Je voudrais cette opération puisse s'étendre à tout le monde, même à ces forces du progrès qui sèment la terreur devant la base de la 10e rue, mais aussi le long de l'avenue Mombele 12e qui mène vers Capella lorsqu'on passe par là. Donc je voudrais que vous puissiez vraiment être au milieu du village et éviter les deux poids de mesure. Pour finir, je voudrais avoir votre point de vue sur l'exécution de la peine de la mort. Comme l'a dit quelqu'un, il y a des textes fondamentaux, l'article 16 et 61, qui interdisent de manière formelle l'exécution de la peine de la mort. Au-delà de ça, nous avons également adhéré à plusieurs traités internationaux. Et dans l'architecture juridique, une déclaration ou une convention internationale l'emporte sur la loi. Le code pénal le prévoit à l'article 5, mais il y a la constitution qui interdit. Je prends le cas de l'article 61 qui dit « En aucun cas, même pendant l'état d'urgence, on ne peut ôter les droits à la vie ». Donc, quel est votre point de vue par rapport à cela? Faut-il attendre la révision pour exécuter ou respecter ce que dit la constitution ou réviser les codes pénal congolais? Je chute, M. Guimaté, à demander au gouvernement de ne pas se limiter aux mesures urgentes ou conjoncturelles, mais d'avoir des mesures structurelles pour la tranquillité. Et cela passe rapidement par l'amélioration des conditions de vie, comme vous l'avez dit, par l'inspection de la police. Il y a une branche qu'on appelle inspection de la police, qui a pour mission de veiller aux bavures policières. Et enfin, prendre en charge les policiers. Ils sont tellement mal payés. Merci. Et pour se faire mentir, il faut n'importe quoi. Une fois de plus, merci. Dire qu'il était élite, c'était pas insulter les autres. C'était qu'une appréciation, M. Guimaté.
Merci, merci. Vous avez les doigts, n'est-ce pas, de, d'apprécier les personnes comme vous les voulez. C'est votre droit. Et, monsieur le ministre, vous pouvez réagir, n'est-ce pas, à toutes ces interventions. Oui, Blody de Kinshasa, Jean-Arthur de Kinshasa, Maître Omar de Kinshasa.
Non, mais on avait oublié aussi l'auditeur de Mahagi.
Ah, Mahagi,
qui avait posé la question sur les Kulunda en cravate. Mm-hmm. Et ici, je voudrais seulement dire qu'il y a une
Sylvain,
monsieur Sylvain, voilà. Il y a une différence entre le banditisme urbain et les Kulunda en cravate ou le banditisme économique qui est effectué par des responsables étatiques et administratifs dans les bureaux. Et là aussi, il y a des réponses qui ont déjà été données par le gouvernement de la République, avec non seulement l'IGF, mais toutes les autres structures, CNRF, Cour des comptes, qui sont engagées à l'initiative du président de la République depuis son premier mandat sur toutes ces questions.
Mais en dépit de toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement, cet autre banditisme-là, on n'arrive pas à les combattre, réduire considérablement ces phénomènes.
Il n'est pas moindre, c'est l'un des banditismes les plus puissants, et cela a été prouvé à travers les différents pays. Il existe partout au monde. C'est l'un des banditismes les plus puissants parce qu'il est fait par des hommes qui ont un certain pouvoir.
Ailleurs, on sanctionne, il y a des procès qui sont organisés, des gens qui sont punis.
Ici aussi, on sanctionne, mais peut-être qu'on n'a pas encore été habitué à la dénonciation. On n'a pas encore été habitué au fait qu'on en parle. Mais au moins, depuis un certain temps, en République démocratique du Congo, quelle que soit la fonction que vous avez, vous n'êtes plus à l'abri de toutes ces poursuites et dénonciations.
Glody parle des camps militaires. Est-ce que le gouvernement congolais contrôle les camps militaires?
Glody parle des camps militaires et des réalités que nous avons dans ces situations ici. Ici, moi, je nous appelle à parce que nous sommes dans une émission, nous sommes en train de communiquer. Je suis le ministre de l'Intérieur qui est en charge
la
sécurité de nos populations, qui est en charge la conduite de ces opérations, qui sont aussi des opérations stratégiques. Donc, il ne faut pas m'amener dans une émission publique à étaler et à dévoiler la stratégie que nous avons mise en place, que nous mettons en place parce que nous sommes encore en pleine opération. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne la ville de Kinshasa, nous allons bientôt clôturer la première phase et des grandes opérations. J'en ai identifié déjà 6 déploiements.
Donc les camps militaires sont aussi concernés.
Non, il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas venu dire ou ce que je n'ai pas envie de dire. Laissez-moi communiquer sur ce qui est important à dire pour vos auditeurs et permettez aussi que je protège toute la stratégie qui a été mise en place par le commandement de la police générale. Donc moi je rassure Glody qu'il a l'opportunité, la chance d'avoir une police nationale qui travaille, des services de sécurité qui ont les informations. Il est aussi bien de partager les informations que vous avez pour orienter ces différentes opérations et soyez-en rassurés.
Maître Omar parle d'arrestations arbitraires et il évoque aussi cette question que beaucoup de Congolais, de Kinois se posent, la force de progrès de l'UDPS, 10e rue Mombele.
Oui, les arrestations arbitraires, ce matin d'ailleurs, je recevais dans mon téléphone une information sur un jeune homme qui aurait été arrêté arbitrairement, qui serait fervent, croyant d'une église activiste et qui aurait été, je dis bien au conditionnel malheureusement. J'ai demandé à mes services de vérifier cette information. Les erreurs et les bavures, elles peuvent être commises. Le plus important, c'est de nous informer, de dénoncer. Et si cela est le cas, on s'attelle à corriger et à sanctionner ceux qui ont commis ces erreurs. Je suis arrivé dans ce ministère et j'ai eu des communications de travail avec les différents services pour leur faire savoir que il n'y a pas de Congolais spécial en République démocratique du Congo. Tous ceux qui enfreignent la loi auront affaire à la force de la loi. Et je crois que vous avez
comment
constaté...
Comment vous expliquez que ces gens continuent à commettre des bévues, des forfaits aujourd'hui, au-dessus de tout le monde?
C'est faux de le dire, c'est faux de le dire.
Maître Omar nous a parlé de Mombele, quartier Mombele, et puis 10e rue, limité. La force de
que ces réalités-là existent, c'est une chose. Mais de dire qu'il y a des personnes qui sont protégées, c'est faux. Nous sommes tous ici à Kinshasa. Il y a quelques mois, nous avons vécu des arrestations organisées par la police qui ont été faites dans ces milieux-là, des audiences foraines publiques qui ont été faites dans ces milieux-là, des condamnations, et les personnes sont jusqu'à aujourd'hui en détention.
Oui, mais ce ne sont pas des Congolais spéciaux.
Mais je voulais aussi répondre à Monsieur Kabamba, qui a
par rapport à la collaboration entre vous et le ministère de la Justice.
Voilà, nous sommes un gouvernement. Un gouvernement, c'est une équipe. Et moi, je solliciterai de l'opinion de nos auditeurs de ne pas avoir tendance à vouloir affronter des membres d'un gouvernement. Nous sommes une équipe, et dans une équipe, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence.
C'est des maillons d'une même chaîne.
Voilà. Nous travaillons sur des secteurs qui sont complémentaires. Mmh. Et ici, il faut aussi intégrer que un gouvernement, c'est une structure hiérarchisée. Donc nous avons une hiérarchie et nous nous respectons telle quelle, et nous travaillons dans cette forme-là d'une équipe gouvernementale sous la coordination du Premier ministre, qui est le premier d'entre nous, et c'est un gouvernement du président de la République. Donc il n'y a aucune ni rivalité ni course, il n'y a pas de proclamation dans un gouvernement la République.
Vous allez conclure avec cette question. Vous pensez que cette approche que vous utilisez, Opération Dobo, suffit-elle pour réduire considérablement ces phénomènes Kuluna et aussi de manière durable? Ça sera votre conclusion, parce que
je suis convaincu qu'elle aura un impact très significatif sur le banditisme urbain. Je suis convaincu qu'elle va sécuriser et rassurer davantage nos populations, mais effectivement, elle n'est pas la seule réponse à ce malheur que subit notre société dans ces différentes villes. C'est pour cela que je vous ai dit qu'au niveau du gouvernement, nous allons élargir la participation des ministères sectoriels pour nous permettre de mieux répondre à cette question.
Merci, c'est par là que nous terminons.
Je vous remercie.
Oui, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, Maître Jacquemin Chabani-Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières du gouvernement central. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Alain Goy qui était à la technique, Paul Bajanyama, Nelson Nyombe à la vidéo, Julie Fezabongonda qui l'a réalisé, coordonné sous la supervision de Martin Sebou Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus. Bonne suite des programmes sur Radio Capi. Et meilleurs vœux pour 2025. On se retrouve demain avec un autre sujet.